Christ vous présente le livre inspiré, où nous avons déjà vu lors de nos précédentes leçons comment l'inspiration vous concerne et les preuves internes d'inspiration. Nous allons maintenant passer à un autre point important, c'est-à-dire l'archéologie et l'inspiration. Les preuves d'inspiration peuvent être divisées en deux catégories, internes et externes. En d'autres mots, certaines preuves peuvent être trouvées dans la Bible elle-même, tandis que d'autres existent en dehors du livre. Ici, l'artiste a voulu tout simplement montrer deux genres de preuves. Nous voyons, d'une part, ceux qui, comme les détectives, fouillent dans les pages de la Bible et cherchent dans les coins pour trouver des preuves d'inspiration, alors que par contre, les astronomes, les archéologues, les géologues, les philosophes et les biologistes cherchent parmi les choses se trouvant en dehors de la Bible pour vérifier si elle dit bien la vérité. Très souvent, lorsque on discute des preuves de nature externe, ceux qui étudient la Bible se posent la question « Comment puis-je croire en la Bible si je ne suis ni un savant ni un archéologue ? Et si je n'ai ni le temps ni l'argent nécessaire pour aller fouiller la terre en quête de preuves pour ma foi dans l'inspiration de la Bible ?» La réponse à cette question est très simple. Dieu n'a jamais voulu que son livre se prouve uniquement par preuves externes. Quand le livre qui s'appelle la Bible a été prévu par Dieu, elle a été de telle manière qu'elle puisse parler d'elle-même. La Bible, comme nous l'avons déjà vu dans notre deuxième leçon, se justifie elle-même. Elle peut faire face par elle-même à ses détracteurs. Il est donc bon que nous puissions prendre en considération les preuves de nature extérieure à la Bible. Elles ne sont pas essentielles, mais elles sont certainement d'une grande aide et nous encouragent à affermir encore davantage notre foi en éliminant toutes sortes de doutes qui pourraient subsister. Qu'est-ce que l'archéologie ? Cette question vient en tout premier lieu puisque dans cette leçon, nous allons avoir affaire avec l'archéologie et l'inspiration. Le dictionnaire nous donne la définition suivante de l'archéologie. C'est l'étude scientifique des vestiges matériels de la vie humaine passée et de ses activités. Grâce aux découvertes archéologiques, nous savons maintenant beaucoup de choses sur des races pratiquement oubliées qui vivaient il y a bien des siècles. Les travaux des archéologues commencent à couvrir bien des domaines, mais c'est pour les gens qui se penchent sur la Bible qu'il présente le plus de valeur. Quand des découvertes d'anciens écrits rédigés sur du parchemin, des tablettes d'argile, de la pierre ou d'autres matériaux sont faites, ils nous ramènent au temps où la Bible a été écrite. Nous voyons ici une des portes de Babylone. Une étude de telles découvertes est un peu comme si on ramenait les hommes des temps bibliques dans notre temps actuel pour les laisser nous dire quand, où et à quelles conditions ils vivaient. La critique ne peut nier que les récentes découvertes faites dans les pays bibliques attestent absolument toute la complète véracité des récits, des choses et d'événements faits par la Bible. Dans cette leçon, nous voulons savoir ce que l'archéologie a en fait prouvé. Nous examinons certaines découvertes en ayant pour but de voir comment elles se rapportent aux Écritures. Et en ce faisant, nous comprendrons vraiment que nous avons raison de croire que la Bible a été inspirée par Dieu. Notre première recherche va avoir affaire avec une certaine sorte de brique que la Bible affirme avoir été faite de paille et de chaume. Le peuple d'Israël s'était, comme chacun le sait, installé en Égypte grâce à l'invitation du Pharaon, dont Joseph était le bras droit. Mais la Bible dit en Exode chapitre 1, versets 7 à 9, que les Israélites se multiplièrent, s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. C'est alors que s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants qu'Israël a maintenant pour former son peuple. Ils sont plus nombreux, ils sont plus puissants que nous. » Le verset que nous avons sous les yeux, Moïse décrit certains des problèmes de l'Égypte et sa première tentation pour y remédier. Le Pharaon dit à son pays, en parlant du peuple d'Israël, « Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Notons qu'une partie de la tâche qui pesait sur les épaules d'Israël lors de son esclavage consistait à fabriquer des briques pour les innombrables bâtiments et monuments qui étaient construits par les Égyptiens. La tâche écrasante de fabriquer des briques n'étant pas suffisante pour arrêter l'expansion démographique des Israélites, le Pharaon change alors ses plans et dit à ses contremaîtres, « Vous ne donnerez plus qu'auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. » Jusqu'à présent, ce sont les Égyptiens qui fournissent la paille, d'ailleurs rare, à leurs esclaves. Mais à partir de maintenant, ils doivent eux-mêmes essayer d'en trouver, ce qui augmente d'autant plus leur tâche. Les Égyptiens exigent toujours d'eux le même nombre considérable de briques par an. Dans le même chapitre 5 du livre de l'Exode, nous pouvons lire que le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Pour autant que nous sachions, la Bible ne dit pas pourquoi les Israélites commencèrent à employer du chaume au lieu de paille, mais pourtant ils le firent. Il est logique de penser que si un changement avait été apporté dans la fabrication des briques, que ce changement serait également apparu dans les briques servant à la construction des magasins dont parle Exode chapitre 1, versets 10 et 11. Durant ces dernières années, les archéologues ont appris beaucoup sur la fabrication des briques en Égypte et tout correspond d'une manière précise à la description des versets du livre de l'Exode. Le professeur Naville, effectuant des fouilles pour le compte du fonds d'exploration égyptien, identifia le site de Pithom, la grande ville égyptienne. Il découvrit même les magasins décrits dans l'Exode chapitre 1 et verset 11, mais fait plus surprenant encore, une partie des murs était construite à l'aide de briques faites avec de la paille et une autre partie avec des briques sans paille, exactement comme le dit la Bible. On a découvert ces témoins du temps passé qui prouvent la précision avec laquelle la Bible nous renseigne couramment sur des questions qui semblent d'abord tout à fait secondaires. Vous voyez ici la photo d'une brique moulée avec la boue du Nil et qui comprend incorporé dans sa masse des bras de paille, suivant la méthode utilisée par les enfants d'Israël dans leur travail forcé. Cette brique porte un cachet ne laissant aucun doute sur l'époque à laquelle elle fut fabriquée et sur l'identité du souverain ayant ce cachet. C'est la marque du pharaon Ramsès II. Et précisément le pharaon de l'Exode. Notre prochain point sera la question du tribut que dut payer vers l'an 700 avant Jésus-Christ le roi de Juda, Ézéchias, au roi d'Assyrie. Pendant des années, il semblait qu'il y avait là une contradiction flagrante. Le tribut était-il de 300 ou de 800 talents d'argent? Le témoignage de la Bible sur cette transaction est donnée en des termes en 2 Rois, chapitre 18 et verset 14, qui ne font pas doute. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. La Bible est formelle. Ézéchias paye un tribut de 300 talents d'argent. Cependant, quelque chose qui semblait être une grande contradiction apparut quand on découvrit à Ninive ce prisme hexagonal moulé dans de l'argile et haut d'environ 37 cm. Ce document relate les détails de 8 campagnes effectuées par Sennachérib, roi d'Assyrie. Il décrit notamment l'invasion de la Palestine en 701 avant Jésus-Christ et le siège d'Ézéchias de Judéa à Jérusalem. On y parle également d'un tribut offert par Ézéchias, mais ce tribut aurait été de 800 talents d'argent et 30 d'or. Pendant pas mal de temps, il ne semblait y avoir aucune solution à ce problème et certains disaient évidemment que la Bible était dans la plus grande erreur. Mais une fois de plus, les archéologues vinrent à la rescousse de la Bible. Des découvertes récentes démontrent que les talents servant à la mesure de l'argent n'étaient pas le même en Judée qu'en Assyrie. La chose remarquable est qu'une fois ces découvertes faites, on s'aperçut que 300 talents en Judée valaient 800 talents en Assyrie. À partir de ce moment-là, ce point qui jusqu'alors semblait prouver la faiblesse des renseignements bibliques devint une preuve de plus de la véracité de la Bible et deux sources d'informations. Une fois encore, la Bible triomphait devant ses détracteurs. Voyons une autre question qui semblait absolument insoluble pendant un nombre d'années. Qui était roi? Nabonaïde ou Belshazzar? Le livre de Daniel stipule à de nombreuses reprises que Belshazzar était le roi de Babylone. Nous pourrons par exemple lire dans le cinquième chapitre du livre de Daniel et au verset 1, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et but du vin en leur présence. Une seule chose n'avait pas dans ce récit, jamais le nom de Belshazzar n'était stipulé dans l'histoire. Il existait ce qui semblait être une liste complète de tous les rois de Babylone qui ne laissaient aucune chance de mission d'un roi quelconque. Pour ajouter à la complication, la liste contenait le nom de Nabonaïde, qui devait régner durant l'époque même où la Bible disait que Belshazzar régnait. Évidemment, les sceptiques disaient « la Bible se trompe ». Il fallait pourtant avoir un peu de patience, car à nouveau, le témoignage des fouilles vint au secours du problème avec une étrange découverte qui prouvait au moins trois choses qui allaient clarifier cette apparente différence entre l'histoire biblique et l'histoire tout court. Première des choses. En 1854, Sir Henry Rawlinson fit une étonnante découverte à Uran-Perdé. Les cylindres qu'il découvrit portaient une inscription faite par le roi Nabonaïde lui-même. Elle mentionnait un homme du nom de Belshazzar, ce qui prouvait pour le moins une chose, c'est que quelqu'un portait ce nom. Il avait existé. La deuxième chose est que les inscriptions faites par le roi Nabonaïde mentionnaient Belshazzar comme étant son fils aîné. Cette découverte jeta la lumière sur deux éléments. Tout d'abord sur l'existence d'une personne appelée Belshazzar, ensuite sur son existence durant l'époque stipulée par Daniel. Cependant, il restait une autre contradiction à éclaircir. Daniel disait que Belshazzar était roi à Babylone, alors que d'autres mentionnaient, insistaient même, sur le fait que c'était son père Nabonaïde qui était roi. La troisième des choses que clarifiaient les fouilles était qu'en fait Belshazzar régnait en l'absence de son père. 22 ans plus tard, Sir Rawlinson faisait une autre découverte édifiante, celle-ci dans l'ancienne Babylone. Il mit à jour une série de 2000 tablettes et cylindres en argile. On s'aperçut que sur l'un des cylindres, que l'on voit ici, le roi Cyrus de Perse raconte son invasion de Babylone. Ceux qui étudient l'histoire savent que c'est cette invasion qui fit s'écrouler l'Empire de Babylone, établissant ainsi les Mèdes et les Perses comme dirigeants du monde. Bref, ce cylindre mentionne la capture d'un prisonnier nommé Nabonaïde et ajoutait même que le roi était mort durant une certaine nuit. Puisque Nabonaïde était prisonnier et avait vécu durant quelque temps après la chute de Babylone, ce roi devait avoir été son fils, Belshazzar, qui régnait en l'absence de son père. Le langage de l'inscription exprime presque identiquement ce que dit Daniel, chapitre 5, verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. En parlant de Daniel, Belshazzar dit « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Depuis que les archéologues ont mis en lumière le fait que Nabonaïde et Belshazzar régnaient en même temps, ce passage semble un peu plus facile à comprendre. En accordant un honneur à un homme, comme c'est le cas ici, il était courant pour le roi d'offrir la moitié de son royaume et d'offrir la seconde place comme dirigeant, comme cela en avait été le cas pour Joseph et le pharaon. La raison d'offrir la troisième place est maintenant évidente. Il y avait déjà deux dirigeants, Nabonaïde et Belshazzar, son fils. Daniel aurait donc été le troisième. Dans notre étude sur l'archéologie et l'inspiration, nous allons porter maintenant notre attention sur la question suivante. Moïse aurait-il pu écrire le Pentateuque? Pendant de nombreuses années, ceux qui ne croyaient pas à la véracité de la Bible disaient non, il n'aurait pas pu écrire les cinq premiers livres de la Bible parce que l'écriture n'existait pas du temps de Moïse. En 1902, une grande découverte se fait dans les ruines de Susa par une expédition française dirigée par M.J. de Montgomery. Il s'agissait d'une stèle de basalte noir d'environ 2,30 m de haut et 2 mètres de circonférence, dont nous ne voyons ici que la partie supérieure. Elle date d'environ 1750 ans avant Jésus-Christ et se trouve maintenant au Louvre. Sur ce monument sont gravées 4000 lignes d'inscriptions. Elles contiennent entre autres 248 lois formulées par le roi Hammurabi. La scène que vous pouvez voir représente Hammurabi devant le roi Soleil, assis sur son trône. Sur la partie inférieure se trouve le commencement du texte des lois en écriture monumentale cunéiforme, c'est-à-dire en forme de croix. D'après l'histoire, cet Hammurabi et l'âme Faël de Genèse 14.1 ne seraient qu'une seule et même personne. Ce chapitre de la Genèse mentionne Amraphel comme étant l'un de ceux qui a aidé à capturer Sodome et avec l'aide duquel Abraham a combattu pour délivrer Lot, qui avait été emmené prisonnier. Étant donné qu'Amurabi et Amraphel ne font qu'un, il est bien évident que le roi Amurabi des inscriptions était contemporain de cet Abraham, qui avait lui-même vécu bien avant et que Moïse n'écrive les cinq premiers livres de la Bible. Ces découvertes du code de loi d'Hammurabi prouvent une chose très importante. C'est qu'un haut degré de civilisation existait avant l'époque de Moïse. Et que par conséquent, l'écriture était déjà connue et utilisée avant son temps. Moïse a par conséquent très bien pu écrire le Pentateuque, et ne faites aucun doute qu'il l'a fait. Avant la découverte de l'existence de la nation hittite, ceux qui ridiculisaient la Bible employaient cet argument pour prouver leur scepticisme. Pendant une très longue période, rien sauf la Bible ne prouvait qu'une telle nation ait jamais existé à la surface du globe. La Bible pourtant parlait des Hittites plus de 48 fois dans ses différents livres. Il semblait bien qu'il y ait là une difficulté apparemment insurmontable. Avant de vous montrer la solution de ce grave problème, lisons ensemble deux passages de la Bible qui citent les Hittites. Dans la version seconde de la Bible que nous avons utilisée, ils sont appelés les Hétiens. Il n'en est pas de même dans toutes les versions. Le livre des Nombres, au chapitre 13 et verset 29, dit « Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hittiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. » Et le livre de la Genèse, au chapitre 26 et au verset 34, raconte Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien. Ceci ne sont bien sûr que quelques exemples de nombreuses fois où la Bible mentionne les Hittites ou Héthiens en rapport avec le peuple de Dieu, les Israélites. Nous possédons maintenant d'autres preuves en dehors de la Bible qui attestent que cette grande nation a bel et bien existé à une certaine époque. Son histoire s'est même trouvée un moment être parallèle à celle des Hébreux. L'archéologie, par ses découvertes en Égypte et en Assyrie, a prouvé au moins trois choses à ce sujet. Premièrement, qu'ils formaient une grande nation, deuxièmement, qu'ils vivaient au nord de la Syrie, troisièmement, qu'ils possédaient un code de loi. L'étude de leur loi indique même qu'ils étaient très bien organisés et qu'ils ne formaient absolument pas un pays retardataire ou formaient d'éléments hétéroclites. Il paraît inconcevable qu'une nation telle que les Hittites, qui avait pourtant à une certaine époque dominé sur un énorme territoire, puisse tout d'un coup s'effacer de la mémoire des hommes et ne plus laisser aucune preuve tangible de son existence. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Dans toutes les annales de l'histoire de l'Antiquité, il n'y avait pas la moindre trace, le moindre mot se rapportant à cette grande race. Le témoignage de la Bible était le seul qui existait. Cependant, déjà, en 1878, William Wright découvre la pierre d'Amman, sur laquelle toute trace des hiéroglyphes inconnus sont repérés. Il pense qu'il s'agit d'un vestige hittite, mais personne ne veut le croire. En 1887 a lieu la sensationnelle découverte des tablettes de Tel el Amarna. Elles révèlent que le pharaon Amenophis IV était en correspondance avec le roi des Hittites. Et ce roi des Hittites s'appelait Subi-Bilom, et cela se passe au cours du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Les Égyptiens avaient même été en guerre avec les Hittites, comme l'atteste une inscription relative à un traité passé entre Ramsès II, le pharaon d'Exode, et le roi Hattusib II, au XIIIe siècle. En 1906, ce traité est confirmé par une autre découverte faite cette fois à des milliers de kilomètres de là, à Bogaskeni, en Turquie. Il s'agissait de tablettes rédigées en écriture cunéiforme de langue acadienne que nous voyons ici. On fit donc un raisonnement très simple. Pourquoi ce texte d'une importance primordiale pour les Hittites se trouvait-il à Bogaskeni? Un traité de ce genre ne pouvait être conservé que dans les archives de la puissance intéressée, c'est-à-dire là où résidait le roi. Cela signifiait donc que les fameuses ruines de Bogaskeni devaient être identifiées comme étant les vestiges de la capitale des Hittites. L'histoire de ces gens ne pouvait pouvaient cependant être connus tant que leur langue et leur hiéroglyphe demeuraient incompréhensibles. Les Hittites employaient en effet le plus souvent les critères cunéiformes tels que celles que nous venons de voir, mais ils en connaissaient aussi une autre réservée généralement à la rédaction de l'inscription royale ou le texte hittite religieux. Et nous voyons ici une faible partie des inscriptions hiéroglyphiques de la fameuse pierre de Hama, découverte en 1887 et sur laquelle les savants se penchèrent enfin. La découverte du sceau de Toutankhamon en 1940, 1914 et 1918, dont nous voyons ici le dessin, fut le point de départ du déchiffrement des hiéroglyphes hittites. Ce sceau de 3 cm 3 de diamètre présentait en effet deux textes identiques. L'un situé sur le pourtour était en écriture cunéiforme et l'autre le même qui est à l'intérieur rédigé en hiéroglyphe. Pendant ce temps, on faisait d'autres découvertes telles que celle-ci, qui est en bas-relief représentant la famille royale hittite assistant à un banquet et faite lors de fouilles effectuées de 1932 à 1934. D'autres découvertes furent effectuées en 1946 et en 1953 et permirent d'autres très intéressantes trouvailles. On est même parvenu à reconstituer la forme et les détails des diverses villes fortifiées hittites dont nous pouvons voir ici la maquette. Cette carte montre l'importance de la nation hittite dans le monde de l'époque. Bien que la Syrie ait été le centre de sa domination, des découvertes très récentes ont démontré que durant une certaine époque, les Hittites régnaient sur un vaste territoire allant de la mer Égée à l'Euphrate, un empire. Encore une fois, la Bible avait raison quand elle parlait des Hittites. Les archéologues l'ont largement prouvé. Le suivant témoignage des fouilles se rapporte à un autel érigé à des dieux inconnus. Dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 23, l'apôtre Paul parle de la colline de Mars à Athènes et dit « J'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. » En 1909, on a découvert à Pergame, en Asie mineure, un autel dont un des supports portait une inscription que l'on a pu reconstituer et qui disait « Au Dieu inconnu ». Il ne s'agit bien sûr pas du même autel que ceux dont parlait l'apôtre Paul, mais cela prouve que des autels à des dieux inconnus existaient. Il existe au British Museum à Londres, à une place de mer, un monument fameux que l'on appelle l'obélisque noir. Cette pierre a été sculptée durant le règne de Salmanassar III, roi d'Assyrie, qui régna de 860 à 825 avant Jésus-Christ. Cet obélisque a été découvert en 1935 dans les ruines du palais de Salmanassar III, alors qu'on était en train de creuser une dernière fois à un endroit précis avant d'abandonner les fouilles. Il s'agit d'une longue pierre présentant quatre côtés. Elle a 1,20 m de haut et 10 mm de largeur, comme vous pouvez le voir. Les inscriptions qui y sont gravées racontent les campagnes de ce roi et les sculptures montrent les différents monarques conquis qui lui apportent leur tribut. Parmi ces rois se trouve Jéhu, le 10e roi d'Israël, fondateur de la 4e dynastie. Voici une vue du panneau supérieur montrant Jéhu prosterné devant le roi d'Assyrie en présence d'un officier assyrien et de ses aides. Ceci est la seule représentation contemporaine de n'importe quel roi israélite. Encore une fois, seule la Bible parlait de ce roi. En 2 Rois, chapitre 10, verset 36, il est même dit « Jéhu avait régné 28 ans en Israël. » à Samarie. L'obélisque noir a prouvé qu'on peut avoir entière confiance dans ce que la Bible dit, car elle rapporte des événements et des faits qui ont vraiment existé. En 1868, une autre grande découverte fut faite par un missionnaire allemand dénommé Klein, à l'est de la mer Morte, à Dibben, contre un genre de Danie, pour être précis. Il s'agissait d'une stèle qui était en possession des Arabes. Finalement, ces derniers acceptèrent de s'en défaire, mais malheureusement, après l'avoir mutilée pour en faire des amulettes porte-bonheur. Elle se trouve au musée du Louvre à Paris et est très endommagée. Elle n'a pu être reconstituée que grâce à des décalques. La stèle, appelée stèle de Moab, est haute de 1,25 m et large de 60 cm à sa base. Elle a été façonnée durant le règne de Mécha, roi de Moab, environ 806 ans avant Jésus-Christ. Elle porte, comme vous le voyez, des inscriptions dans lesquelles le roi de Moab décrit l'oppression que subit son pays à cause de Omri, le roi d'Israël. Ce récit relate également que les Moabites ont recouvré plus tard leur indépendance. Comme dit la stèle de Moab, Omri était bien un des rois successifs d'Israël, et à l'époque où le situent les inscriptions. La Bible dit en 1 Rois, chapitre 16, verset 16, « En ces jours-là, tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël Omri, chef de l'armée. » Dans toutes les inscriptions mises à jour par les archéologues, la Bible décrit avec exactitude les relations existantes entre Israël et les autres nations. Une des découvertes les plus utiles furent faites par hasard en 1987 par une paysanne près du village de Tel El Amarna, à 320 km au sud du Caire. Elle découvre près de la rive du Nil environ 350 tablettes d'argile, représentant les archives royales d'Amenophis IV et portant des inscriptions. On dit que cette femme aurait cédé ses droits sur les tablettes pour seulement quelques francs. Ces tablettes portent des séries de caractères cunéiformes, c'est-à-dire en forme de croix, rédigées il y a environ 3500 ans. Il s'agit en l'occurrence de véritables lettres concernant des pays tels que l'Égypte, Babylone, la Syrie, la Palestine, la Syrie, la Phénicie et le pays des Philistins. Ces missives font de nombreuses allusions à des événements relatés par la Bible. Ces tablettes, qui sont d'une valeur archéologique considérable, représentent un véritable témoignage du passé et attestent de manière péremptoire l'inspiration des Écritures. Oui, à mesure que les archéologues fouillent les vestiges des temps passés, notre foi en la Bible devient de plus en plus grande, car nous redécouvrons toujours davantage les merveilleuses vérités qu'elle contient. Les paroles de Jésus renforcent également davantage notre confiance dans la Bible quand il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Nous vous donnons maintenant rendez-vous pour voir notre dernière leçon qui aura pour sujet les anciens faits scientifiques et l'inspiration.